A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
Radio Bavard, émission du 28 juillet 2021, et nous allons vous présenter un livre de Einar Carlsson qui est paru aux éditions Grasset en 2021, mais il y avait une première édition en Islande en 2018, et il faut dire que c'est un événement qui a eu lieu en 59 qui a inspiré l'auteur, parce que plusieurs chalutiers d'Islande ont été pris dans les glaces, et il signifie dès le début que si l'incident a réellement eu lieu, la narration et les personnages ne sont soumis qu'aux lois de la fiction. Et tout de suite, puisque je vous parlais de glace, eh bien, un paysage dans la glace, page 11.
À première vue, lorsque la glace s'amoncelle sur un navire, il semble impossible de s'en débarrasser. Elle a non seulement l'apparence du verre, mais également sa dureté. Or, celle qui s'accumule sur notre bateau n'a rien d'une mince pellicule qu'un gamin pourrait briser en y jetant des cailloux. C'est une gigantesque culture de cristal. Elle enfle et se boursoufle, enfantant toutes sortes de figures qui semblent nées de la main d'un artisan esthète, alors qu'en réalité, elle se contente d'épouser les courbes du navire et en premier lieu de tout ce qui se trouve au-dessus de la coque. Les grands hublots de la passerelle de commandement forment de longues lignes bombées qui font penser à des montagnes ou à des pistes enneigées. Les tiges d'acier destinées à recevoir les bacs à poissons semblent vouloir se hisser à la hauteur des gratte-ciels d'Amérique. Le bastingage n'est plus qu'un mur de glace. Les câbles et les haubans, d'ordinaire à peine plus épais que le pouce d'un robuste bosco, ont maintenant la circonférence de canalisation d'égout. Les potences affilées installées à bâbord et tribord sont devenues deux gros blocs de verre, tout comme le château et l'ensemble des objets présents sur le pont, parmi lesquels ceux-là même qui sont censés assurer notre salut, les canottes de sauvetage. Et puis, il y a cette protubérance à la proue, le gaillard d'avant avec ses treuils et son guindeau, le tout est enfoui sous une épaisse calotte qui ressemble à celle de Bardarbunga, ce secteur du Vatnajökull où, il y a quelques années, le geysir avait dû faire un atterrissage d'urgence. Les passagers avaient été retrouvés au bout de plusieurs jours bien vivants, alors que tout le monde ou presque les considérait comme morts. Au printemps suivant, l'avion de ligne et sa cargaison avaient disparu dans une grotte du glacier dont l'épaisseur augmente constamment, tout comme l'appareil monté sur ski que l'armée américaine avait envoyé récupérer les survivants, mais que le gel avait cloué au sol après son atterrissage, si bien qu'on avait dû l'abandonner sur place. Le Vatnajökull avait également englouti quand on avait tenté de le retrouver quelques mois plus tard. Or, c'était justement ces montagnes de glace dont l'épaisseur augmentait constamment que les membres d'équipage du Mafur s'apprêtaient à affronter, emmitouflés dans leurs vêtements les plus épais, chaussés de cuissardes, le corps tout entier recouvert de vareuses étanches. Certains étaient armés de marteaux, d'autres de clés à écrous, l'outil universel de tout marin. D'autres encore tenaient des bouts de tuyaux, des maillets à attendrir la viande ou des couperets. Le maître d'équipage brandissait la grande barre à mine d'acier, celle qu'à terre on aurait appelée pied de biche. Les mieux outillés s'étaient armés de piques à glace de taille étonnamment modeste. Il y en avait deux à bord. Les marins sortirent sur le pont, lui aussi enseveli sous une épaisse couche de glace. Il fallait absolument trouver des points d'appui. Le plus souvent, y compris par gros temps et par fort tangage, c'était assez facile. Mais tout ce à quoi on pouvait s'agripper avait désormais disparu sous cette épaisse banquise. Heureusement, les oscillations étaient moins violentes qu'à l'accoutumée pendant de telles tempêtes, atténuées par le poids de la gangue qui recouvrait le navire et le rendait plus lent à se redresser après chaque assaut que lui infligeait la houle. Cela ne changeait toutefois pas grand-chose. La surface qu'on avait sous les bottes n'était jamais horizontale, mais constamment en pente. Puis, il y avait ces paquets de mer qui arrivaient à toute vitesse, quand on s'y attendait le moins, submergeant tout. On n'avait alors plus qu'intérêt à se cramponner face à cette mer glaciale et déchaînée. Ce n'étaient pas là de simples éclaboussures, mais de véritables cascades qui déferlaient.
Voilà comment se présentent les conditions de travail. Si on peut parler de travail, c'est un travail surhumain pour casser la glace. Et il y a un souvenir de ce qu'ils appellent traditionnellement, depuis la mort d'un jeune homme, à l'occasion du fait qu'ils aient été pris dans la glace, le banc des mouettes tridactyles. C'est un banc en Groenlande qui est extrêmement poissonneux et qui est survolé par des mouettes avec les trois doigts aux pattes. Et il est devenu légendaire, on va voir. Et tu trouves que leur travail est comparable à ceux qui étaient sur ce navire-là et ce jeune homme qui est tombé justement et qui en est mort. Et le fait de rester même 3 minutes dans l'eau froide parce qu'il a été secouru tout de suite par ses camarades l'avait rendu tout bleu.
Au début, il parvenait avec une étonnante rapidité à rendre au bateau ses contours habituels, la zone de travail réapparaissait, peinte ou en métal brut, principalement brune et noire. On risquait même de s'oublier dans cette tâche, chose dont il fallait absolument se garder, car on devait constamment surveiller les gigantesques vagues qui déferlaient et s'agripper au point d'appui qu'on venait de libérer quand elles submergeaient le pont. Derrière les hublots de la passerelle, le commandant surplombait ses hommes et observait la mer, les vagues dont certaines étaient si hautes qu'il devait reculer la tête pour voir à quel endroit elles iraient se briser. Spécialiste en la matière, il s'écriait « Déferlante !» lorsqu'une de ses lames s'apprêtait à fondre sur le bateau. Et dès que le navire s'était délesté de ses paquets de mer, l'ensemble des ferrures, propres et rutilantes, l'instant d'avant, se couvrait à nouveau d'une pellicule qui épaississait à grande vitesse, autant sous l'effet des vagues suivantes qu'à cause des embruns dont l'air était saturé et qui se mélangeait à une averse de neige tourbillonnante. Bientôt, cela n'avait plus rien d'une pellicule, ils devaient recommencer à frapper les câbles et les tiges d'acier qu'ils avaient si soigneusement nettoyés quelques instants auparavant. Leurs mains étaient juste un peu plus fatiguées, les vêtements qu'ils avaient enfilés avant de se mettre au travail n'étaient plus aussi secs et chauds. Quand on se démène ainsi, on sue sous sa vareuse et l'eau froide se ferait un chemin dans votre col lorsque vous vous baissez pour esquiver les paquets de mer, sans compter l'eau qui ruisselle sur le pont et risque à tout moment d'entrer dans vos cuissardes. Malgré tout, les hommes les plus forts, armés des outils les plus performants, s'y attaquaient, et quand ils avaient de la chance, comme sur l'échelle permettant d'accéder au gaillard d'avant, ils parvenaient à briser de gros morceaux d'un seul tenant. Cela ne faisait toutefois que créer d'autres problèmes. Ces blocs se mettaient alors à glisser en crissant sur le pont et il valait mieux ne pas se trouver sur leur trajectoire. Tous les marins savent qu'il est bien plus dangereux de heurter un bloc de glace errant que n'importe quelle banquise, car non seulement l'un d'eux a coulé un navire tout neuf avec presque 100 hommes à bord, il y a quelques jours dans la zone de pêche du Mafur, mais c'est aussi un de ces icebergs qui a scellé le sort du majestueux Titanic et de ses 2000 passagers il y a quelques 50 ans. Une masse de ce type glissant sur le verglas qui recouvre le pont risque d'infliger de graves blessures. En outre, cela ne rendait pas le bateau plus léger. Même si la glace avait quitté le lieu où elle s'était accumulée, elle était toujours à bord. Les blocs de cette espèce, il faut les casser à coups de marteau ou de barre à mine, les réduire en unités suffisamment petites pour être évacués par les dallos, ou se débarrasser des plus gros morceaux en s'y mettant à plusieurs pour les jeter par-dessus bord. Les premiers montés à l'assaut s'étaient noués autour de la taille une corde attachée au navire lui-même. Les autres, restés dans les cabines à l'avant, attendaient qu'un filin soit tendu entre la passerelle de commandement et le gaillard et qu'on les appelle sur le pont où ils avanceraient en se cramponnant à cette ligne. Dès qu'ils arrivèrent, ils s'attaquèrent à la glace accumulée sur les vitres de la passerelle. Ils y parvinrent assez bien, si ce n'est qu'un malencontreux coup de marteau brisa le hublot situé juste à côté du transmetteur d'ordre, là où le commandant se tenait le plus souvent quand il était à la manœuvre. Dans d'autres conditions, on se serait empressé de boucher ce trou béant pour barrer la route au vent glacial, à la neige et au paquet de mer. Mais le commandant comprit immédiatement que cette ouverture présentait certains avantages, en tout cas provisoirement, tant que la glace accumulée sur la passerelle occultait presque toute la surface des autres hublots.
Et on va voir la tempête se développer. Là, ce sont les conditions de travail, comme j'ai déjà dit, de ceux qui luttent contre la glace. Et ils luttent, pourquoi ils luttent? Pour emmener une belle pêche. Et on voit qu'ils ont comme ennemi la glace, mais aussi on va voir le poids du poisson qu'ils portent. Et c'est ainsi que là, ils essayent de dégager de la glace ce qui s'appelle le gaillard d'avant, c'est-à-dire un petit local dans lequel se placent les matelots qui sont à l'avant. Et alors, comme pour ceux qui ont des cellules dans le gaillard d'avant, quand il y a une tempête, à l'avant, ils vont encore plus haut et plus profond que les autres. Et on assiste à un réveil extraordinaire du jeune Larousse. Et je disais qu'ils partaient à la pêche, c'est leur objectif, ramener une belle pêche. Et alors apparaît ce qui fait la pêche, c'est le chalut qui va leur causer du souci avant leur pêche miraculeuse. Le chalut, page 88. Ça va?
Ben, moi j'en suis à la page 24.
Alors on dit la page 24 et puis...
On verra. Le commandant annonça d'une voix calme depuis la passerelle. « Très à tribord, soyez prêts !» Sur les navires comme le nôtre, les chaluts étaient élingués à de hautes potences, des structures formant un U à l'envers, ou, si on préfère, un N à l'endroit, arrimées au bastingage à bâbord et tribord. Ces structures partaient du gaillard d'avant et aboutissaient à la coursive du pont, située à l'arrière de la passerelle. On mettait le chalut à la mer en laissant filer les câbles des grosses poulies devant la passerelle de commandement. Le dispositif se mettait alors à siffler et à chantonner, puis il n'y avait plus qu'à attendre, ce qui laissait l'équipage sans occupation plusieurs minutes durant. C'est à ce moment-là que les authentiques marins passaient sous leur vareuse une main qu'ils glissaient jusqu'à leur poche de chemise où se trouvait leur paquet de camels. Ils en sortaient une clope qu'ils se mettaient dans la bouche et allumaient en protégeant la flamme entre leurs mains. Puis ils recrachaient la fumée, protégeant également la cigarette entre leurs paumes. C'était là tout un art qui n'était pas à la portée du premier venu par gros temps, quand les embruns submergeaient le bateau, et moins encore lorsqu'on remontait le chalut, que les câbles émergeaient, ruisselants, et que l'écume jaillissait en gerbes des poulies où ils s'enroulaient en crissant. Celui qui était de quart, qu'il s'agisse du commandant, du second capitaine ou du premier lieutenant, observait le comportement du bateau, voguant alors à toute vapeur, et veillait à ce que le chalut se place correctement. Cette gigantesque poche ouvre la gueule face aux prises quand elle touche le fond, que tout va comme il se doit et que le navire peut enfin ralentir. On abaisse en effet le régime des moteurs dès que le filet est installé. Le bas de l'ouverture possède une sorte de dentition constituée de grosses boules d'acier qui avancent comme des roues sur les fonds marins. Ces boules enjambent les obstacles aussi facilement que les pneus d'une jeep, ce qui protège la poche. L'extrémité du chalut est tapissée de peaux de bœuf qui l'empêchent de se déchirer quand il croise sur sa route toutes sortes de roches acérées ou d'aspérités qui parsèment le fond. Le haut de l'ouverture est équipé de flotteurs qui la maintiennent béante. Il arrive qu'il y ait un problème pendant la manœuvre. Le chalut se retourne. Les boules d'acier se retrouvent au-dessus des flotteurs et obturent l'ouverture. Le trait ne rapporte alors aucune prise et il faut s'attendre à ce que le filet se déchire. Les marins expérimentés se rendent aussitôt compte que ça ne tourne pas rond. Ils le voient à la manière dont le bateau se comporte et en tâtant les funes, ces câbles d'acier fixés aux poulies qui tremblent alors de façon anormale, bien qu'ils mesurent plusieurs centaines de brasses. Il n'y a dans ce cas pas d'autre solution que de remonter le chalut et de le vérifier avant de le remettre à l'eau. Une fois le chalut mis en place, il faut rapprocher l'un de l'autre ces câbles fixés chacun à une poulie. Lorsqu'ils sont collés, leur tension est identique. La force qu'ils exercent alors sur les deux panneaux situés à l'avant du chalut et reliés chacun à un de ces câbles permet de les ouvrir à l'angle adéquat. On dirait deux mains en prière, paumes légèrement écartées. C'est le déplacement du navire allié à la résistance de l'eau qui maintient le chalut grand ouvert. Telle une gueule affichant un large sourire ou adressant un éclat de rire sardonique à ses proies. Pour rapprocher les funes, quand le filet a touché le fond, on fait descendre un crochet fixé à un autre câble grâce à une poulie installée sur le pont des chaloupes. Ce câble et ce crochet se nommeraient sans doute simplement messager si l'essentiel du vocabulaire se rapportant au chalutage en islandais ne provenait pas de l'anglais. Nous parlons donc de messaser en prononçant le mot à l'islandaise. Lorsque ce dispositif a agrippé les funes et les a remontés sur le flanc du navire, on les bloque dans un taquet, une grosse mâchoire d'acier située sous la passerelle. Puis on fait le trait en continuant d'avancer jusqu'à ce qu'on ait pêché assez de poissons, en tout cas autant que le chalut peut en capturer dans les limites du raisonnable. On débloque ensuite le taquet et on hisse le filet à bord.
On en a un exemple de ce que le livre nous livre abondamment. C'est comment ça marche un chalutier. Le chalut, c'est le contenu justement. C'est cet énorme outil qui est le filet, qui est accroché. Il donne un certain nombre de mots qui sont des mots du vocabulaire marin. La hune, c'est un tout petit plateau qui se trouve au milieu du grand mât et sur lequel les marins peuvent s'arrêter avant de... Et ils ont la vue sur tout
le monde. Quand ils grimpent en haut du mât.
Quoi ?
Quand ils grimpent en haut du mât.
Oui. Quand ils grimpent en haut du mât. Et puis, le pont est situé. La passerelle dont il parle est située au-dessus du pont. Et c'est là que se tient le commandant devant le hublot qui a été cassé par la tempête. Un autre mot de vocabulaire, c'est la. Autre que la une, ce sont les noms des câbles. On les appelle les. Ça y est, j'ai oublié. Et
le messager, ça devrait être le messager, mais en fait, ils le disent en islandais. Messager.
Et on voit aussi l'importance des Anglais dans la pêche, parce que c'est eux. Voyons ce qui se passe en ce moment hein, avec le Brexit. C'est eux qui sont semble-t-il dominants dans la pêche, mais là le roman est vraiment le double de pêcheur d'Islande qui a fait tant de bruit.
Le commandant du Mafur était diablement habile pour poser le chalut. Il était en réalité le plus doué des hommes dans tout ce qui touchait à la pêche en eau profonde. Il arrive toutefois que les plus capables commettent eux aussi des erreurs, même si ce n'est pas fréquent. Ainsi, à notre premier trait de cette campagne de pêche...
Le trait, c'est la traction. Hein.
Alors qu'il abaissait le régime du moteur, notre commandant a compris qu'il y avait un problème. Il est sorti de la passerelle pour vérifier les funes en les caressant doucement, comme une sage-femme veillant sur une parturiente.
Les funes, c'est les câbles.
Puis a ordonné à tout le monde de remettre sa vareuse et de remonter le filet. Ce n'était pas le moment de traînasser, même si la moitié de l'équipage venait de s'asseoir à la cantine devant un repas chaud. Boulettes de viande, choux rouges et pommes de terre, le tout arrosé de beurre fondu. Tout le monde s'est précipité sur le pont. Il fallait commencer par séparer les funes, c'est-à-dire par débloquer le taquet dont j'ai déjà parlé. On se sert pour ça d'un gros outil stocké dans la coursive sous la passerelle, une grosse barre à mine de la taille d'un pied de biche. Il faut que cet outil soit long. Les câbles se tendent à l'extrême quand ils traînent le chalut et ses panneaux à grande profondeur. Ils se transforment en véritable fouet quand on les libère, et là, mieux vaut se tenir à distance respectable. En outre, la manœuvre nécessite une grande force. La barre à mine est lourde et son retour puissant. Ce fut le maître d'équipage qui, vêtu d'un simple chandail et mâchant encore la première bouchée de son repas, avait accouru pour débloquer le taquet. C'était un dur à cuire solidement charpenté qui n'avait peur de rien. Les marins qui l'avaient amené à bord, ivres morts et furieux une semaine plus tôt, avaient dû s'y mettre à 3 ou 4 pour porter son imposante carcasse. Donc, il avait quitté la cantine en pullover, avait attrapé une clé à peine plus longue qu'un avant-bras et s'en était servi pour débloquer le taquet, en un éclair. Le dispositif s'était ouvert avec un claquement, libérant les câbles qui s'étaient tendus comme les cordes d'un violon. Le commandant, qui avait vu faire, était venu le réprimander vigoureusement. « Je ne tolérerai pas de tels comportements sur mon navire. » Le maître d'équipage avait marmonné quelques excuses en promettant de s'amender, puis il avait souri par en dessous, croyant que l'autre ne le voyait pas. Il s'était également gardé de dire que tout le monde à bord avait déjà vu le commandant lui-même débloquer le taquet en douce à l'aide d'une simple clé quand il était pressé de remonter le filet. Au bout d'un long moment, le chalut était apparu à la surface. Les câbles s'étant entortillés, il avait fallu les démêler et réparer la ligne de tête où étaient disposés les flotteurs. Il s'était acquitté de cette tâche en si peu de temps qu'il n'avait pas eu besoin de se rabattre sur le chalut de bâbord. Tout était rapidement rentré dans l'ordre et bientôt, à bord du Mafur, nous avions commencé à moissonner le précieux poisson du banc des mouettes tridactyles.
Voilà. Nous sommes sur le banc des mouettes tridactyles et il a fallu réparer le chalut. Et on voit ici apparaître pour la première fois, pas pour la première fois, parce qu'il y a une séance qui sera donnée plus tard, où on voit pas moins de 3 marins le tirer alors qu'il pousse des hurlements de fureur. Pour le ramener à bord, parce que le bateau va partir et il s'agit que tout le monde soit là. Et le maître d'équipage est quelqu'un de, vous en êtes rendu compte, de très très calé, de très fort, qui n'a peur de rien et qui, en une minute, avec encore une bouchée de nourriture dans la bouche, il s'est trouvé sur le pont pour répondre à l'appel du commandant. Et le commandant a pris des décisions tout de suite. D'une part, il faut s'occuper des canaux de sauvetage et on va voir apparaître tous. D'autre part, il n'y aura que 2 heures de repos sur 24 pour l'équipage tant que les choses ne seront pas dans l'ordre. Page 39, voyons ce qu'il y en est des canaux de sauvetage. Et puis on voit apparaître la rousse.
À ce moment-là, le premier lieutenant qui avait refusé de se lever quelques instants plus tôt arriva à la passerelle, les yeux emplis de ténèbres. Ayant entendu cette conversation, il demanda « Qu'est-ce qu'on attend ?» Il proposa d'aller détacher le canot de sauvetage. 2 matelots se portèrent volontaires pour l'accompagner. Il répondit au premier « C'est à toi de voir. » Le plus jeune à bord se manifesta également. Il s'appelait Larusse et venait d'avoir 18 ans. Les autres jugèrent que son intervention serait à la fois inutile et imprudente. De toute manière, il n'y avait pas assez de place pour autant d'hommes sur le pont des chaloupes. Le premier lieutenant déclara « Ce serait encore assez affreux de perdre 3 matelots si ça se passe mal. » Le commandant fit de son mieux pour stabiliser le bateau face au vent, tandis que les 3 hommes sortis s'occuper du canot avançaient sur le pont tout en éliminant la glace du bastingage et de tout ce à quoi on pouvait s'agripper. Ils atteignirent la chaloupe, cassèrent la gangue qui enserrait les fixations, qu'ils brisèrent ensuite à coups de hache. Dès qu'elles cédèrent, l'embarcation se libéra et tomba à la mer. À la lumière des feux du navire, ils la virent atterrir à plat sur les flots. Seule une minuscule partie affleurait à la surface. Elle fut ensuite emportée par leur sillage, par les courants, avant de disparaître dans la nuit. Le bateau se redressa aussitôt, au grand soulagement de Larusse. Le plus jeune des matelots, même s'il avait éprouvé un étrange sentiment en voyant s'éloigner puis disparaître dans la mer l'embarcation censée assurer leur survie en cas de catastrophe.
On va maintenant se présenter le navire.
Lorsqu'il était monté à bord du navire amarré à Reykjavik, le 29 janvier, une semaine plus tôt, il était aussi enthousiaste qu'impatient, et ce, même si sa mère, venue l'accompagner avec son père, était très angoissée. Elle avait un mauvais pressentiment, elle avait fait des rêves inquiétants. Ses parents l'avaient conduit dans leur Jeep Willys, son père était au volant. Diablement fier de son fils qui s'embarquait pour sa troisième campagne de pêche sur un chalutier et avait déjà acquis la réputation d'être courageux et d'avoir le sens du sacrifice. Son père avait appris ça de la bouche des dockers qui entendent bien les choses. À sa dernière campagne, le jeune homme s'était engagé sur un autre chalutier qui avait moins fière allure que le Mafur. Il était allé pêcher dans la mer des Barents, loin, au nord du cercle polaire. « Nous sommes tout près du pôle Nord !» s'était exclamé un de ses compagnons. C'était au plus noir de l'hiver, il n'avait pas entrevu la lumière du jour durant toute la campagne. Il faisait sombre 24 heures sur 24, sauf quand le ciel se découvrait, dévoilant la lune, les étoiles et le balai des aurores boréales. Mais cela n'arrivait que rarement et ne durait jamais. La plupart du temps, il voguait dans les brumes et les bourrasques mêlées de neige, la pêche avait été mauvaise et le salaire des matelots plutôt maigre. Or, le Mafur s'apprêtait à partir au large de Terre-Neuve. La Russe n'avait entendu que du bien des campagnes de ce navire. On naviguait tranquillement pendant quelques jours pour atteindre les bancs de poissons, puis on rentrait en Islande après une pêche rapide, intense et miraculeuse de Sébaste, qui s'achetait ensuite à bon prix en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il était d'ailleurs question de se rendre là-bas pour y vendre la cargaison, avec les réjouissances et l'épaisse enveloppe de billets que cela impliquait. Et puisque sa mère et son petit frère étaient malades, chacun savait que cela aiderait bien les parents s'il leur offrait l'argent qu'ils gagneraient pendant cette campagne. La proue du chalutier amarrée, à la jetée, portait l'inscription Mafur RE335. La famille était descendue de voiture. La Russe avait expliqué à sa mère à quel point ce navire était de construction robuste et fiable, une véritable ville d'acier d'un poids de plus de 700 tonnes.
Et voilà pourquoi on s'embarque pour une campagne sur un chalutier. Ça va durer longtemps et ils sont dans le noir. C'est pas drôle. Et on va maintenant voir ce qui se passe avec les autres navires qui sont tout autour.
Au bout d'une petite semaine de navigation, nous avons atteint le banc des mouettes tridactyles, au large de Terre-Neuve. Au début, la pêche ne fut pas franchement fructueuse. Quand nous avons fait le premier trait, le chalut s'est mal placé, comme nous l'avons déjà précisé, et lorsque nous l'avons remis à l'eau, il s'est remonté en lambeaux. Il avait éclaté sous la pression des prises alors que ce second trait n'avait duré qu'un peu plus d'un quart d'heure. Nous nous sommes donc rabattus sur le chalut de bâbord que nous avons lancé tandis que les ramandeurs s'activaient pour réparer l'autre endommagé. Le matelot Larousse s'occupait de la corbeille, des grosses aiguilles de marine sur lesquelles il plaçait de la ficelle de ligature et de remaillage. Ces aiguillets étaient bien vite consommés par les ramandeurs aux gestes rapides et précis. La Russe passait les épais fils dans les chats en regardant d'un air admiratif ses compagnons qui se démenaient pour réparer à main nue le chalut alourdi par l'eau de mer. Comment diable faisait-il pour s'y retrouver? Ces hommes, arrivés quelques jours plus tôt ivres-morts, presque inconscients, les yeux rougis par l'alcool et le visage couperosé, savaient avec exactitude combien de mailles manquaient ici, combien de nœuds refaire là, et à quel endroit il fallait réparer en faisant une patte de sterne. La couchette où la Russe s'était installée avait sans doute été récemment occupée par un ramandeur. Son prédécesseur avait en effet collé sur la cloison un gigantesque schéma légendé sur lequel chaque élément du chalut était numéroté. Les panneaux, le cul, la poche, le nombre de mailles et de nœuds. La Russe avait bien l'intention d'apprendre ce schéma par cœur de manière à devenir un ramandeur digne de ce nom. Un magicien capable de se plonger dans un amas ruisselant et incompréhensible de filets enchevêtrés qui, en bon ramandeur, pourrait attraper n'importe quelle partie et s'y retrouver immédiatement malgré l'obscurité, le roulis, les vagues et les averses de neige. Un magicien qui saurait tout de suite combien de nœuds il fallait faire à tel endroit Combien de mailles a-t-elle l'autre et qui, ayant achevé sa tâche, attraperait son couteau, couperait le fil de son aiguille et balancerait le filet sur le pont en s'exclamant « C'est bon !» De telles contrariétés mettaient votre patience à rude épreuve. Les matelots juraient sur le pont, ils maudissaient le chalut, maudissaient la mer et maudissaient le froid. Pourtant, il ne faisait que moins 4 ou moins 5 degrés, l'air était à peine plus froid que l'eau, mais peut-être que proférer des jurons et imprécations leur réchauffaient le corps.
Voilà un exemple des pensées de nos personnages à remarquer. En ce qui concerne le maître d'équipage, on ne sait pas ce qu'il pense, on va le savoir bientôt, mais Jeanne Larousse a beaucoup de fierté d'être là-dessus. Et le chalutier Arpa n'est pas loin, on verra qu'il lui arrivera un destin, le destin pour lui sera tragique. Et maintenant, on revient à la marche du bateau. C'est un des éléments de la narration. Qu'est-ce qui se passe ? Page 56.
À son poste à la passerelle, en ce samedi 7 février, lorsqu'il vit les bancs de nuages noirs s'amonceler dans le ciel, le commandant comprit qu'il ne fallait pas trop tarder à reprendre la mer. La météo nationale canadienne avait diffusé un avis de tempête sur le banc des mouettes tridactyles et les zones voisines. Or, quand les vents violents de l'hiver s'abattent sous ces latitudes, la mer se déchaîne. D'autres signes indiquaient que quelque chose se préparait. Par exemple, personne n'avait aperçu le vol quotidien des mouettes dans le ciel, alors qu'en général, elles ne manquaient jamais leur rendez-vous matinal. Le remous s'amplifiait sous la coque, ce qui signalait l'approche d'une tempête, même si l'eau était presque lisse en surface autour du mâfur, qui, le ventre alourdi de près de 400 tonnes, s'élever et s'affaisser au gré des vagues. Le jour aurait dû se lever depuis bien longtemps, or il faisait encore étrangement sombre. Le ciel était couleur cendre, presque noir, même si on ne distinguait pas les nuages en surplomb. Qui plus est, le baromètre avait chuté subitement. Voyant la position de l'aiguille, le commandant avait tapoté l'instrument fixé à la cloison et elle s'était arrêtée plus bas encore, sur le mot « storm » inscrit en langue étrangère. Le parc regorgeait de poissons que les matelots se pressaient de charger dans la cale. Personne ne prendrait aucun repos tant que cette tâche ne serait pas achevée. Les deux chaluts gisaient sur le pont, mais leurs volets pendaient encore par-dessus bord, accrochés aux potences. Les matelots devaient les hisser et les attacher, mais il fallait du temps pour arrimer et garantir les chaluts, comme on le faisait d'habitude. Le maître d'équipage et quelques autres décidèrent donc d'entasser le tout sous le gaillard d'avant en le lestant de chaînes. On enroula les funes sur les treuils qu'on bloqua à l'aide de solides cadenas. En cas de tempête, mieux valait ne pas avoir à s'inquiéter de câbles qui risquaient de se détacher et d'endommager le gouvernail et l'hélice.
C'est ainsi qu'il se prépare à la tempête et de nouveau, on a un retour en arrière. Le jeune Larousse se souvient de ce qu'il a vécu. Page 58.
Le jeune Larousse avait salué ses parents d'un geste de la main avant de les regarder s'éloigner dans leur jeep, puis il avait embarqué sur le mâfur. Il était ensuite monté directement à la passerelle pour se présenter au premier lieutenant qui lui avait dit que l'ensemble de l'équipage serait d'ici peu à bord. Ils avaient bientôt levé l'ancre et il pouvait aller choisir sa couchette dans la cabine des matelots, sous le gaillard, tout à l'avant du bateau. Il y avait également du café chaud à la cantine. Larousse avança sur le pont, son sac de marin à l'épaule. Il ouvrit la porte en acier du gaillard et descendit quelques marches. Il tomba alors sur deux couchettes à l'air saturé de fumée, où étaient allongés deux hommes qui parlaient fort et d'une voix avinée. Il n'osa pas entrer. D'autres marches conduisaient plus bas. Il les emprunta et arriva à une seconde cabine équipée de couchettes à bâbord et tribord. Là, il n'y avait personne. Deux ou trois d'entre elles étaient occupées par des sacs de marins usés et sur une autre, il aperçut une couverture brodée. Il en choisit une dans la rangée supérieure, la débarrassa des saletés qui l'encombraient et y posa ses affaires. Les élucubrations alcoolisées de la cabine du dessus se mêlaient au grincement engendré par le frottement de la coque contre les pneus destiné à atténuer les chocs et disposé à la verticale sur le flanc de la jetée. Il alla ensuite à la cantine où il rencontra le garçon de cuisine, un jeune homme de son âge qui lui offrit du café et une tartine de pain blanc surmontée d'une tranche de fromage. Le premier lieutenant, qui l'avait accueilli à la timonerie, passa la tête dans l'embrasure en lui annonçant qu'on faisait monter le dernier matelot et qu'on s'apprêtait à appareiller. Il le pria d'aller au gaillard d'avant pour aider à ramener les haussières à bord, ajoutant qu'il pourrait ensuite aller se reposer, mais qu'il devait s'attendre à être appelé à la barre. « Tu n'as pas bu une goutte, n'est-ce pas ?» Le bruit du moteur s'amplifia tout à coup. La Russe se contenta de hocher la tête, puis rejoignit le gaillard, où un autre matelot l'attendait. Ils observèrent les deux hommes qui s'acharnaient à faire avancer sur la passerelle d'embarquement un troisième marin de corpulence imposante et complètement ivre, qui ne l'entendait pas de cette oreille, les repousser et leur conseiller d'aller au diable avec leur maudit rafio. Le premier lieutenant vint leur prêter main forte. Tous trois poussèrent le géant sur la passerelle et disparurent avec lui sous le gaillard d'avant. La Russe n'avait pas bien distingué son visage, mais il lui semblait l'avoir vu quelque part. Le colosse s'esclaffait maintenant comme un ogre. La porte en acier du gaillard se referma sur son rire. Sur la jetée, des hommes détachaient les haussières, des bits d'amarrage. La Russe et son compagnon hissèrent les épais cordages à bord. Le chalutier se mit à reculer. L'hélice fit bouillonner l'écume à la surface de l'eau. La proue s'éloigna peu à peu du ponton. On libéra les haussières de la poupe. Et le mâfur se dirigea vers l'entrée du port où des phares clignotaient sur les môles à bâbord et tribord. On apercevait également les feux et balises qui délimitaient le chenal dans le détroit de Sundin. Ils dépassèrent un cargo et deux autres chalutiers. Les lumières de la ville commencèrent à s'éloigner. C'était le début d'une longue traversée qui les conduirait sur les zones de pêche de Terre-Neuve au large des côtes nord-américaines. En redescendant à la cabine inférieure, la Russe trouva le géant que les matelots avaient embarqué de force quelques instants plus tôt et qui ronflait tout habillé sur une des couchettes. Il reconnut aussitôt le maître d'équipage de l'autre chalutier sur lequel il s'était engagé avant Noël pour aller pêcher dans la nuit polaire sur les mers du Septentrion. Il s'installa. Les mouvements du navire allaient s'amplifiant à mesure qu'il s'éloignait de la terre ferme. La proue, où il était allongé, s'élevait et s'affaissait. Les martèlements réguliers du moteur diesel, situé à l'arrière, se transmettaient à l'ensemble du bateau. Partout dans les cloisons, les planchers, les couchettes, on ressentait les vibrations. L'écho de voix sonores et de bouteilles entrechoquées lui parvenait depuis la cuisine supérieure. Dans la couchette voisine, l'ogre ronflait, marmonnait, grommelait. La Russe sombra dans le sommeil, bercée par ses sons.
Voilà le deuxième... apparition de notre maître d'équipage. On voit avec les dénominations des trois premiers, le capitaine, le second et le... j'ai oublié. Lui, maître d'équipage, on a l'impression que c'était une sorte de contre-maître et en tout cas un personnage qui ne ressemble pas aux autres. A remarqué aussi la façon dont l'auteur décroche de son récit pour présenter un petit instant de calme, le moment où, avant l'arrivée de la déferlante, eh bien, ils prennent le temps d'allumer une cigarette. C'est vraiment quelque chose qui spécifie ce récit.
Il fut réveillé par un grand fracas. Incapable de dire combien de temps il avait dormi, il avait l'impression de voler. L'odeur des matelas et des vêtements sales flottait dans la cabine inférieure qui puait aussi l'humidité, le poisson, le goudron et le tabac froid. Ses relents le prenaient à la gorge et au nez et lui donnaient le tournis. Malgré l'épaisse couverture sous laquelle il transpirait, il avait froid. D'habitude, il ne souffrait pas trop du mal de mer, mais les plongeons du navire gagnaient en profondeur. Il avait l'impression que son corps se soulevait de sa couche comme dans un ascenseur lancé à toute allure, puis que quelques instants plus tard, la terre se dérobait sous ses pieds, ou plus exactement sous son dos. Le bateau était comme en chute libre, puis cette chute sans fin s'arrêta net, interrompue par des bouillonnements et des éclaboussures, et à nouveau, il entendait ce fracas titanesque, comme si l'étrave toute proche de son oreille venait de heurter une énorme masse rigide. Le navire continuait cependant à se comporter de la même manière. Il s'élevait et s'affaissait tour à tour. À chaque plongeon plus profond, on entendait à nouveau cet énorme fracas, comme si quelqu'un, peut-être le dieu Thor lui-même, frappait la coque en acier de son gigantesque marteau, juste à côté de la proue, tout près de l'oreille de la Russe. Plus il réfléchissait, plus il était persuadé qu'il y avait un problème, que quelque chose de grave se produisait, qu'on entendrait bientôt des cris ordonnant à tout l'équipage de monter sur le pont, que leur navire en détresse ne tarderait plus à sombrer.
Il se dépêche de monter sur le pont et il s'aperçoit que les autres ne sont pas si émus que lui par ce roulis épouvantable. Et on va avoir la venue d'une autre déferlante.
Feignant l'insouciance, le matelot Larousse demanda si on ne pouvait pas remédier à ce problème. Le second lui répondit que c'était sans doute possible, mais qu'il n'était pas certain qu'on le fasse un jour. Les armateurs ne se bousculaient pas pour intervenir, même quand les équipages se plaignaient de désagréments. Les matelots de Leifi Guindour, immatriculés dans le Nord, qui avaient eux aussi mis le cap à l'Ouest, avaient pendant longtemps signalé que leur navire avait un peu trop tendance à prendre l'eau. Le bateau avait d'ailleurs fini par être surnommé l'immersible, son étrave plongeant un peu trop profond dans la vague. Mais personne n'avait rien fait jusqu'au moment où, des années plus tard, on l'avait mis en cale sèche. Les techniciens avaient alors remarqué par hasard que le réservoir de carburant situé à l'avant était plein, et ce depuis que le bateau était sorti du chantier naval, alors que tout le monde le croyait vide. Il y avait là quelques 100 tonnes qui entraînaient l'étrave vers le bas.
Voilà comment cela se passe dans ce milieu des travailleurs de la mer qui ont été tellement glorifiés et que visiblement l'auteur veut montrer tels qu'ils sont, c'est-à-dire pas très brillants mais extrêmement courageux. Et on va retrouver le maître d'équipage avec le souvenir d'un Noël qui pour lui a été un Noël terrible.
Lorsque le maître d'équipage était venu récupérer son sac de marin, les autres avaient hélé l'Hercule, le géant, le héros. « Ohé, tu ne veux pas qu'on t'offre un petit verre pour te réchauffer ?» Or, le froid et l'ensemble de la nuit polaire l'avaient pénétré par tous les pores, gagnant jusqu'au fond de son âme. Comment se refuser un peu de chaleur dans de telles conditions? Cela ne lui ferait pas de mal. Il s'était attardé à leur table et sans qu'il puisse rien y faire, s'était retrouvé avec eux dans le bar installé au sous-sol. Ce ne fut que le lendemain qu'il avait enfin pensé à appeler un taxi pour rentrer chez lui. Il s'était endormi, il s'était réveillé, avait bu encore quelques verres pour se donner du courage, mais lorsqu'il était arrivé, sa compagne en avait eu définitivement assez, elle le lui avait dit, ce n'était pas une vie d'être avec un homme qu'elle ne voyait qu'épisodiquement, qui plus est complètement ivre. Et un quart d'heure après le retour de son marin, elle avait fait ses bagages et ceux de la petite, puis était montée dans un autre taxi. Le maître d'équipage était resté là en se disant qu'il avait la force de caractère suffisante pour surmonter cette épreuve. Ce n'étaient pas les caprices du cœur d'une femme qui lui feraient perdre la tête. Il l'avait pourtant perdue et le soir même était allé se jeter dans la mer pour mettre un terme à tout ça. Il avait exécuté la première partie de son projet. Il s'était en effet immergé dans la crique en contrebas de la station-service de Fosse-Vaugure et avait commencé à marcher vers le large. Il n'était toutefois pas allé jusqu'au bout. Bien que toujours convaincu que la vie ne valait rien, la perspective de mourir noyé lui avait subitement semblé repoussante. La mer était son lieu de travail, l'eau était froide et sale, et l'idée de laisser cette cochonnerie lui emplir la bouche, le nez et les poumons, puis de périr grelottant, lui était apparue insupportable. Il pouvait sans doute aussi tout régler sur la terre ferme, chaudement vêtu, peut-être même en bonne compagnie. Il était donc allé retrouver ses vieux amis, résolu à se saouler avec eux et à mourir ivre en riant aux éclats. Il avait œuvré à ce projet avec assiduité pendant plus d'un mois. Il lui semblait que les choses avançaient puisqu'il vomissait du sang depuis des jours. Il n'en avait pas encore tout à fait terminé quand, par faiblesse, il s'était laissé convaincre de s'engager pour cette campagne de pêche sur le Mafour. Alors qu'il était en route vers le navire, il s'était subitement rappelé sa décision de se saouler à mort. Voilà qui expliquait sa colère quand les matelots l'avaient traîné, ou plus exactement porté à bord. On s'employait décidément à contrarier tous ses plans.
Là, apprécions l'ironie de la narration qui ne prend pas du tout au sérieux, ce qui est quand même grave, parce que c'est une tentative de suicide et qui montre la mentalité du maître d'équipage. Et cependant, le navire va devoir affronter une autre déferlante.
Il eut tout juste le temps d'ouvrir d'un coup sec la porte de la passerelle et de hurler « Déferlante !» aux hommes qui travaillaient sur le caisson, puis de la refermer avant que la vague ne s'abatte. Le bateau fut envoyé sur le côté malgré son poids. La vague retomba sur le château et des gerbes d'eau entrèrent par le hublot béant. Le mâture se coucha sur tribord. L'inclinaison était si forte que ceux qui se trouvaient sur la passerelle durent se cramponner de toute leur force. Puis la vague passa, mais le mâture refusa de se redresser. Ruisselant, le commandant rouvrit la porte et ordonna aux hommes sur le caisson de rentrer. Ils arrivèrent. Premier, deuxième, troisième, quatrième, et enfin, tous étaient là, trempés, transis, mais vivants. Le commandant remit le transmetteur d'ordre en machine avant demi. Le navire donnait tant de gîtes qu'il craignait que l'hélice ou le gouvernail ne sortent de l'eau. Ce serait alors la fin de l'histoire du mâture et de son équipage. Il cria également ses ordres dans le tube en cuivre. Les gars de la salle des machines étaient aux aguets, le moteur ronronnait. Les pompes transvasaient le carburant dans les réservoirs de bâbord. Ceux qui venaient de redescendre du caisson étaient manifestement en état de choc. Trois d'entre eux étaient assis, les jambes étendues sur le sol comme des gamins apeurés, baissant les yeux ou regardant dans le vide droit devant eux. D'autres matelots étaient arrivés, l'air terrifié par les marches glissantes comme une patinoire qui montait à la passerelle. Il y avait également là ceux qui avaient libéré la chaloupe de tribord plus tôt dans la matinée et le premier lieutenant qui demandait s'il ne valait pas mieux se délester aussi de celle de bâbord. Le commandant n'appréciait pas qu'une grande partie de l'équipage apprenne qu'on risquait d'en arriver à de telles extrémités, que ces hommes sachent qu'en cas de naufrage, ils n'auraient plus aucun moyen de s'en tirer. On eût dit que le premier lieutenant lisait dans ses pensées. « Il n'y a pas de canot en caoutchouc sur le bateau ?» demanda-t-il. Ce sur quoi, après en avoir reçu l'ordre, il alla sur le pont des chaloupes avec deux autres, armés de piques à glace. Les trois hommes s'attachèrent au bastingage. Après quelques coups et martèlements que les autres écoutèrent, hâves et silencieux, on entendit une masse tomber avec fracas sur les flots. Le chalutier se redressa peu à peu, lentement mais sûrement. Le moteur fonctionnait, l'hélice tournait, le gouvernail répondait, la tempête soufflait, les vagues frappaient le navire, chaque éclaboussure retombant sur l'acier gelant aussitôt. Tous savaient que les eaux sur lesquelles ils voguaient étaient en dessous de 0 degré. Ils se trouvaient dans le courant froid descendu du pôle Nord, le courant du Labrador.
Eh bien, le capitaine montre là, une fois de plus, son souci des hommes et sa détermination et le fait de prendre rapidement des décisions. Il va en effet faire une manœuvre très difficile et il va sauver le bateau. Et puis, il n'y a pas seulement les manœuvres et les outils marins et, tout, et le, toutes ces structures énormes. Il y a aussi ce qui se passe en cuisine et le cuisinier va avoir l'idée de leur faire une soupe bien reconstituante, page 127. J'espère que je ne fais pas aller trop loin.
Oui, j'avais 98 avant.
Alors, prends 98.
Un des ouvriers... Ah
oui, c'est souvenirs au milieu de la tempête, ben, un petit cours d'histoire.
Un des ouvriers mécaniciens lisait Haldor Kiljan Laksnes, le prix Nobel national. Il lui arrivait d'être secoué de rire. Un soir, quelqu'un lui demanda « Qu'y a-t-il de si drôle ?» Le mécanicien n'hésita pas à lire à voix haute devant toute l'assemblée le passage dans lequel John Evidson se promène à Rotterdam dans un quartier malfamé où les lanternes sont accrochées au-dessus des portes. Voici qu'une dame l'approche. Comme elle est élégamment vêtue, il suppose qu'elle est l'épouse d'un pasteur ou de quelque homme d'église. Elle engage la conversation avec lui en le priant d'accepter ses faveurs. Elle sent alors la pièce d'argent dans sa bourse et redouble de sollicitude. Puis, John honore la dame et s'endort. Mais au milieu de la nuit, voilà que deux rustos arrivent qui le mettent à la porte. Et c'est ainsi que John perdit sa pièce d'argent. La lecture achevée, l'auditoire éclata de rire. Il m'est arrivé de faire escale à Rotterdam quand je naviguais sur des cargos, déclara un matelot, et j'ai bien l'impression de reconnaître l'épouse de ce pasteur. L'été précédent, alors que la Russe assurait un de ses tout premiers quarts à la passerelle d'un autre chalutier pêchant partant radieux au sud des îles Westman, à proximité de l'îlot de Sulnasker, un matelot avait pointé son index tout près du flanc du navire. Des orques, majestueux cétacés noirs et blancs, nageaient à la surface, sautant et décrivant cercle après cercle, si proches qu'on pouvait presque sentir leur souffle. Ils ont manifestement cerné un banc de harengs ou de capellans et s'en font un festin, avait déclaré un matelot. La nouvelle n'avait pas tardé à se propager jusqu'au ciel. Les fous de Bassan avaient bien vite afflué au-dessus de la marmite, formée par le balai circulaire des orques. Ils piquaient, le bec en avant, comme une escadrille d'avions de combat. Tout un groupe plongeait parfois en même temps sous la surface, puis réapparaissait avec l'air arrogant des rois, l'œil acéré, une proie dans le bec. Le gris et très commun fulmar boréal avait momentanément délaissé le chalutier et les déchets de poissons que l'équipage balançait à l'eau pour s'intéresser au grand événement autour des orques et des fous de Bassan. La Russe regardait vers le nord. Les Westman semblaient flotter sur la mer miroitante. On distinguait plusieurs bateaux de pêche à proximité et plus loin, on apercevait des étendues de sable noir, des pâturages verdoyants et les sommets immaculés des glaciers. Ce jour-là, le jeune homme avait décidé qu'il deviendrait marin et qu'il le resterait sa vie entière. Et voilà maintenant qu'il était à la barre du Mafur, en route vers la pointe située à l'extrême sud de l'immense et glacial Groenland.
Voilà.
Les Vikings avaient eux aussi emprunté cette voie maritime. Partant d'Islande, ils contournaient le cap Farvel et remontaient la côte ouest du Groenland sur leur navire en bois, ouvert à tous les vents. Ces embarcations, de taille bien plus modeste que les chalutiers d'acier actuels, mesuraient tout au plus 25 mètres, soit deux fois moins que le Mafur. Et bien sûr, elles n'avaient ni moteur ni pont, seulement une voile. Cette idée semblait complètement inconcevable à la Russe et au radio, qui fumait sa pipe à côté du hublot. Le second déclara avoir entendu dire que la moitié de ceux qui avaient entrepris cette traversée avaient simplement péri. En effet, certains ont coulé, confirma le radio, mais ça arrive aussi aux navires d'aujourd'hui, comme nous le savons tous. Et ajouta-t-il, ces hommes ne naviguaient qu'en été afin d'éviter les tempêtes hivernales, même si le temps sous nos latitudes est très incertain, y compris en plein été. Mais comment faisaient-ils pour s'orienter alors qu'ils n'avaient ni radar, ni compas, ni sextant ? Je n'arrive pas à comprendre, dit la Russe. Ces grands navigateurs d'autrefois disposaient peut-être d'une sorte d'instrument qui leur permettait de déterminer la hauteur du soleil, répondit le radio. En outre, le ciel et les astres n'avaient aucun secret pour eux. L'étoile polaire leur servait de point de repère. Le second, qui venait justement d'utiliser le sextant quelques instants plus tôt, rétorqua. Encore faut-il connaître l'heure précise à laquelle on effectue la mesure. Et ils n'avaient pas de montre, pas plus que de signal diffusé à la radio. Ha ha ha. S'esclaffa-t-il. L'opérateur radio, décidément très érudit, répondit. Il disposait cependant d'une heure parfaitement fiable, pour peu que le ciel soit dégagé, c'était le midi, le moment où le soleil est à son zénith. En tout cas, ils ont navigué en haute mer pendant des siècles dans tous les sens, partant d'Europe pour aller aux îles Féroé, en Islande ou au Groenland. Ils arrivaient toujours à destination et retrouvaient sans problème leur fjord ou leur baie. Ils sont même allés jusqu'en Amérique. Ça, personne n'en a jamais apporté la preuve, corrigea le second. Le radio répondit qu'on n'avait aucune raison d'en douter puisque l'Amérique et la traversée étaient décrites avec précision dans les vieilles sagas. Ils sont sans doute passés par le banc des mouettes tridactyles. Vous vous rendez compte? Quand on pense que c'était il y a 1000 ans, le premier lieutenant arriva à la passerelle. En tout cas, contrairement à nous, ces gars-là n'avaient à leur bord ni cuisine ni coque. « Moi, je descends manger un morceau », déclara le second pour clore la discussion.
Le second clore la discussion, mais l'histoire n'est pas close. Et on va voir comment le chalutier Arpa, après leur avoir donné de l'espoir, leur donne bien du chagrin.
La Russe monta aux toilettes. Souhaitant s'entretenir avec les officiers, le maître d'équipage le suivit à la passerelle. Le commandant et le premier lieutenant étaient du même avis que lui. Il fallait impérativement que des hommes aillent sur le gaillard pour le libérer de la calotte qui le recouvrait. Le navire peinait de plus en plus à se redresser. Certes, il continuait d'osciller au gré de la houle, mais son poids ralentissait dangereusement ses mouvements. À chaque nouveau creux, la mer enjambait le bastingage et venait lécher les pieds du château, puis le bateau remontait vers la crête suivante et s'arrachait à l'eau glacée. Le premier lieutenant et le maître d'équipage se portèrent volontaires. Ils avaient besoin de deux matelots vaillants pour les accompagner. La Russe, qui sortait justement des toilettes, proposa de participer à l'expédition. Le lieutenant fit aussitôt part de ses réserves. Le gamin était trop jeune et manquait d'expérience. « Ce petit gars a toute ma confiance, » trancha le géant. Les quatre hommes montèrent à l'assaut. Bien qu'il fît jour, le commandant alluma tous les projecteurs de travail encore en état de fonctionner. L'eau submergeait régulièrement la proue et ruisselait sur le pont. Ceux qui étaient à la passerelle se chargeaient de surveiller les vagues à l'approche. Ils pourraient ainsi prévenir les membres de la périlleuse expédition avant l'arrivée d'une déferlante, de manière qu'ils puissent s'agripper solidement jusqu'à ce que la vague soit passée. Ils commencèrent par dégager les échelles permettant d'accéder au gaillard. Bientôt, de grosses plaques se détachèrent. Il fallait en casser certaines en morceaux plus petits pour qu'ils puissent être évacués du navire par ruissellement. Ils se frayèrent ainsi un chemin jusqu'au glacier du gaillard, qui n'offrait pratiquement aucune prise ni aucun point d'appui. Ils s'efforçaient cependant de trouver un endroit où caler leurs pieds, en s'accrochant d'une main à une des zones qu'ils venaient de dégager, tandis que de leur autre main, ils s'attaquaient à la calotte. La Russe et le second matelot étaient équipés de pics à glace, le maître d'équipage et le premier lieutenant de marteaux. Ils parvinrent enfin à atteindre le glacier, sans qu'aucune vague déferle sur eux. Jusque-là, ils avaient simplement essuyé quelques éclaboussures, mais ils devaient faire vite. Ils constatèrent aussitôt que leurs efforts payaient. Des plaques se détachaient à chaque coup qu'ils portaient, et peu à peu, la peinture qui protégeait l'acier apparut sous la gangue de glace. Les quatre hommes frappaient avec frénésie, sentant que bientôt ils seraient débarrassés du poids monstrueux qui menaçait de les entraîner vers le fond. Sans doute trop absorbés par leur tâche, rendus sourds par le vacarme de leur outil, ils n'entendirent que trop tard les cris du commandant qui les prévenait de l'arrivée imminente d'une déferlante, alors que d'ordinaire sa voix était assez puissante, pour résonner sur toute la zone de pêche. La vague s'abattit comme une avalanche. Le premier lieutenant fut projeté sur le pont et plaqué contre une épaisse tige d'acier. Le maître d'équipage et l'autre matelot volontaire réussirent à se cramponner, mais la Russe, qui travaillait tout à l'avant du gaillard, ne trouva rien à quoi s'accrocher et crut que déjà la vague l'emportait. Plongé dans l'eau glaciale, happé par le maelstrom, il allait passer par-dessus bord d'ici à quelques secondes. Tout à coup, il sentit qu'on l'agrippait. On l'attrapait par le col de sa vareuse et on serrait. L'espace d'un instant, il pensa qu'il allait étouffer ou que son vêtement allait se déchirer. Le courant qui tentait de le happer était si puissant que toutes les coutures craquaient. Ce moment semblait interminable. D'un côté, les éléments déchaînés tentaient de l'entraîner de tout leur poids. De l'autre, une énorme main le retenait. « Et je pèse plus que 80 kilos, » pensa-t-il. Enfin, la vague s'éloigna sans avoir emporté quiconque dans son sillage. D'autres matelots se précipitèrent pour secourir leurs compagnons. Trois d'entre eux répondirent qu'ils étaient indemnes, même si la Russe toussait si fort que personne ne comprenait les mots qu'ils tentaient de prononcer. Le premier lieutenant gisait, quant à lui, inconscient sur le pont. Chacun à bord savait qu'il était dangereux de déplacer un homme aussi gravement accidenté. Sa colonne vertébrale était peut-être brisée. Il aurait mieux valu attendre l'arrivée des secours. Mais ici, en haute mer, il fallait se débrouiller seul.
C'est bien ce qui va se passer. Ils réussissent quand même à l'emmener dans une bouchette, mais lors d'un choc particulièrement dur du navire, il va être projeté, le pauvre, en dehors de la coussette. Et puis, histoire anecdotique, l'armateur dit qu'il y a de l'opium dans la pharmacie du bord, mais l'opium, ben, il ne s'y trouve plus du tout, donc il lui enlève ses douleurs en lui faisant boire beaucoup d'alcool. On va sur cette dernière mésaventure du courageux la Russe, eh bien, on va vous quitter en vous souhaitant un bon mois d'août.
a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika, malaika.